Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Bertille Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Le Ridon, Rosalie Suc, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Valentin Bobinet. Nouvelle série donc consacrée aux frontières de la colère. Avant de nous pencher mardi sur les nouvelles portes de l'Europe définies par des accords migratoires, mercredi d'évoquer les difficultés à cartographier cette Asie centrale, et puis enfin jeudi, nous essaierons de comprendre comment Pékin fait bouger les lignes en mer de Chine méridionale. Ce matin, nous intéressons au mur entre les États-Unis et le Mexique, la forteresse Trump ou le pari du mur. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Nous allons agir avec prudence et avec respect à l'égard des autorités des États-Unis. Mais les mesures coercitives, telles celles annoncées par le président Trump, ne mèneraient à rien de bon.
Voici l'accord, un accord très simple qui tient en une seule page. C'est un très bon accord pour le Mexique et les États-Unis. Si nous n'avions pas fait pression sur les tarifs douaniers, nous n'aurions rien obtenu. On s'entend bien maintenant avec le Mexique. Avec Marcelo Ebrard, avec le président, nous nous entendons très bien. Ils entament en ce moment une très bonne action en envoyant 6000 soldats à leur frontière méridionale. En fin de compte, c'est une bonne chose pour le Mexique et c'est aussi une bonne chose pour la relation entre le Mexique et nous.
Alors que l'administration américaine le menaçait de taxes douanières et de guerres commerciales, le Mexique d'Andrés López Obrador a finalement concédé de freiner les flux migratoires. En effet, après avoir accepté un accord imposé par Washington, Mexico a visiblement réduit les flux migratoires et accru les expulsions. Par ailleurs, cet été, le Guatemala a conclu un accord de droit d'asile avec Washington, faisant de son territoire un pays sûr, auprès duquel les demandeurs d'asile ont l'obligation d'effectuer les premières démarches. Le Salvador et le Honduras ont d'ailleurs suivi la voie depuis. Et c'est ainsi que, alors qu'il rencontrait les plus grandes difficultés à obtenir les financements pour le mur à la frontière mexicaine, eh bien Donald Trump mise désormais sur ses voisins pour externaliser sa politique migratoire. Alors le locataire de la Maison-Blanche a-t-il oublié ses ambitions de poursuivre la construction de cette frontière de fer et de béton? Ce mur n'était-il qu'un symbole destiné à montrer à son électorat son volontarisme en matière de lutte contre l'immigration? D'ailleurs, le retour de la campagne va-t-il accélérer les efforts dans le domaine? Et qu'en est-il des migrants sur le terrain? Comment s'adapte-t-il à cette nouvelle donne? Quelles conséquences sur les parcours migratoires des hommes, des femmes? Des enfants aussi qui cherchent à gagner les États-Unis. On se souvient de cette terrible photo des cadavres encore enlacés d'un père et de sa petite fille de 2 ans, Oscar et Valeria Alberto, originaires du Salvador, morts noyés dans les eaux tumultueuses du Rio Bravo en juin dernier, alors qu'ils cherchaient à passer du côté des États-Unis. Ce destin tragique annonce-t-il d'autres drames pour nombre de candidats à l'exil qui, quelles que soient les politiques migratoires des États, iront au bout de leur vie avec l'espoir de l'embellir un peu? Faut-il se préparer à une crise migratoire de grande ampleur en Amérique centrale? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Avec 2 invités, ici avec nous en plateau, James Cohen, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, auteur d'un certain nombre d'ouvrages concernant précisément les politiques migratoires. Je citerai par exemple À la poursuite des illégaux, politiques et mouvements anti-immigrés aux États-Unis, aux éditions du Croquant. Et j'indique pour nos auditeurs que vous avez passé votre été à voyager du côté des États-Unis et également du Mexique pour essayer précisément de comprendre les enjeux actuels de cette...
En partie vacances et beaucoup d'observations aussi.
Absolument. À nos côtés, elle aurait dû être avec nous en plateau, mais elle est malheureusement coincée dans les embouteillages. Dolores Paris, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Alors, vous arriverez peut-être dans le studio d'ici la fin de l'émission. Nous verrons. En tout cas, on va commencer à échanger avec vous par téléphone. J'indique pour nos auditeurs que vous êtes chercheuse au Colegio de la Frontera Norte à Tijuana et que vous êtes à Paris pour un mois, que vous avez fait des terrains du côté du Mexique, mais aussi des États-Unis, notamment de la Californie. On va y revenir. Je vais commencer avec vous, James Cohen, peut-être, parce que quand on regarde un peu les informations qui nous viennent en ce moment du côté des États-Unis, du côté du Mexique, on a l'impression que les chiffres des flux migratoires sont un peu en recul. Alors je vais prendre un chiffre, mais il y en a beaucoup d'autres. On nous dit que plus de 100 000 ressortissants centra-américains ont été expulsés du Mexique vers le Guatemala dans les 8 premiers mois de l'année, c'est-à-dire une hausse de 63% par rapport à l'année précédente. C'est des chiffres qui ont été communiqués par le Guatemala. Qu'est-ce qu'il vous inspire? Et de manière générale, est-ce qu'il vous semble révélateur ou non d'une baisse effective ou non des migrations?
Baisse des flux à la source, je ne crois pas. Il y a beaucoup de gens qui fuient ces pays, les trois pays du nord de l'Amérique centrale. Ça ne cessera pas de sitôt, je pense. Mais ce que cela m'inspire, c'est d'abord pas mal d'ego et de tristesse, parce que je sais que le président élu du Mexique, le président qui est en exercice depuis quelques mois seulement, avait d'autres intentions, beaucoup plus humanitaires et moins violentes envers les migrants passant par son pays et arrivant vers la frontière nord ou restant. Mais la pression de Trump est très forte. Les menaces de Trump, ça va être un peu ça le sujet, côté nord.
Bah alors allons-y tout de suite, Dolores Parris, parce qu'effectivement, quand il est arrivé au pouvoir, Andrés López Obrador, il a d'abord cherché à résister à Donald Trump, il a même plutôt suivi une politique d'ouverture de ses frontières, il proposait même des visas et du travail à certains de ses migrants, et quand il était en campagne, il avait promis de mettre en place une politique migratoire fondée sur le droit des migrants, pas sur les expulsions, voilà ce qu'il avait dit. Et puis finalement, il semble qu'il ait fini par céder avec cet accord du 7 juin dernier. Est-ce que vous avez d'abord été étonné, Dolores Parris, par ce retournement? Comment le comprendre? Est-ce que les simples menaces douanières, je mets simple entre guillemets, parce qu'en réalité, on se doute bien que les conséquences économiques auraient été terribles, mais est-ce que ça suffit à expliquer ce retournement? Et comment vous l'avez vécu de votre côté, Dolores Parris?
Oui, en fait, le retournement n'a pas été aussi brusque qu'il en a l'air. C'est-à-dire, en janvier encore, on voyait une politique assez humanitaire, avec des milliers de visas humanitaires qui ont été donnés aux migrants qui sont entrés avec la caravane de janvier, qui venaient principalement du Honduras. Mais ensuite, en mars, c'est-à-dire bien avant les accords entre les deux gouvernements et les menaces de Trump sur les taxes, il y a eu, disons, des politiques déjà de détenir quelquefois par la force, les familles qui venaient dans les caravanes et de bloquer pas tellement la frontière sud du Mexique, on va le voir, mais plutôt l'isthme, c'est-à-dire un endroit qui est beaucoup plus facile de bloquer. Le secrétariat de l'Intérieur a annoncé justement une politique de bloquer déjà les migrants avant qu'ils n'arrivent à la frontière nord.
Si je regarde un peu les choses, Dolores Parris, dès le premier mois de l'accord, le Mexique a procédé à plus de 21 000 expulsions. Quand on regarde les chiffres, il faut revenir à 2006 et la présidence du conservateur Vicente Fox pour retrouver de tels niveaux d'expulsion. Est-ce que ça veut dire que AMLO, qu'on avait dit homme de gauche, fait exactement comme la droite mexicaine?
Oui, il a même fait plus, effectivement. Et disons qu'il a aussi totalement abandonné la politique d'accueil. On a un problème très très sérieux avec une augmentation, une croissance incroyable des demandes d'asile au Mexique, pas seulement aux États-Unis. Mmh. On a de plus énormément de demandeurs d'asile qui vont vers les États-Unis et qui sont refoulés vers le Mexique, même s'ils sont d'Amérique centrale, du Venezuela, de Cuba, de beaucoup de pays, et qui doivent attendre pendant des mois dans les villes de la frontière nord du Mexique. Mmh. Et pour tous ces gens, c'est-à-dire pour des milliers de demandeurs d'asile, certains dans des conditions très, très vulnérables, des familles, des petits-enfants, il n'y a aucune politique d'accueil, c'est-à-dire il n'y a même pas un budget pour tout ça.
On reviendra sur ce point, Dolores Parris, pour comprendre précisément comment sont accueillis, dans quelles conditions sont accueillis ces migrants. James Cohen, AMLO, je le disais, fait comme la droite mexicaine. Il y a quelque chose qui peut être très révélateur de tout cela. C'est le fait que ce virage droitier, c'est la démission du chef des services migratoires mexicains qui a été remplacé par qui? Par le responsable du système carcéral mexicain. On a compris quand on dit ça.
Oui, oui, oui. Mais
en tout cas, en partie.
Je pense que ce virage à droite est partiel et sectoriel, parce que sur d'autres fronts, je pense que c'est un régime qui n'est pas comme les autres et qui rompt avec un certain nombre de pratiques de corruption généralisées, y compris dans et surtout dans l'État.
Ça, on verra, en tout cas, concernant la politique migratoire, on est loin du compte.
Mais là, on est mal parti et je pense que
très
c'est,
loin
c'est,
des engagements.
C'est assez tragique.
Il y a aussi une chose, parce que il y a la question de la migration, mais en réalité, elle est liée à beaucoup de choses, et elle est liée notamment aussi peut-être à la militarisation. De la même manière, Hamelot, il avait dit qu'il allait rompre avec ce processus de militarisation du territoire, qui en réalité, on le sait, n'a pas permis d'endiguer la violence, peut-être même au contraire. Et en réalité, ce qu'on voit aussi, c'est que pour répondre à ces exigences de Washington, le président Obrador, il a dû déployer des militaires aux frontières pour augmenter les contrôles, et que d'une certaine manière, il participe aussi à cette montée en puissance de la militarisation du territoire. Bien malgré lui, mais de fait, James Cohen.
Oui, ben c'est un peu ça le problème. Il y a au départ, il a multiplié les déclarations comme candidat et comme président récemment élu en courant 2018. Donc, qu'il n'y a pas de solution militaire au flux migratoire. On doit accueillir, on doit créer des emplois, on doit développer le sud du Mexique et l'Amérique centrale pour aider les gens à rester chez eux. C'était ça l'orientation. On est nombreux, disons, à avoir retenu cette idée et on va demander des résultats. Je veux dire, je pense que là, c'est parti dans un sens qui est dû en grande partie à la pression des États-Unis, mais qui n'excuse pas un certain nombre d'autres choses. On attendait un certain nombre de choses, par exemple, en tout cas, c'était la promesse au départ. Sauf erreur, l'idée était que la Guardia Nationale, le nouveau corps qu'il était en train de créer et qui est à peine en train d'être créé maintenant, qui est très en gestation, mais disons que l'idée c'était que les agents de ce corps-là seraient plus humanitaires et seraient plus formés en matière de droit et plus en mesure d'accueillir des deux côtés, sur les deux frontières du Mexique et au milieu.
Mais c'est pas
le cas. Et j'ai été témoin de quelques incidents choquants.
C'est-à-dire,
cet été, j'ai passé quelques heures au sud de la frontière à Agua Prieta, au sud de Douglas en Arizona, dans l'état de Sonora au Mexique, et des personnes qui s'occupent d'une auberge avec une église qui soutient, me disaient qu'ils avaient été visités par la police et par la police nationale, avec une visite plutôt hostile, alors qu'il n'y avait jamais eu des choses comme ça avant, même sous les précédents. Cela m'a choqué.
Dolores Paris, sur cette question de la militarisation du territoire et peut-être en particulier des frontières, quels sont là les efforts aujourd'hui déployés par le gouvernement mexicain pour améliorer le contrôle de la frontière, puisque c'est en tout cas l'ambition du gouvernement mexicain. D'ailleurs, la frontière avec les États-Unis, mais aussi peut-être la frontière sud en réalité. Quels sont les efforts qui sont déployés et est-ce qu'on peut les fermer, ces frontières, Dolores Paris?
Longtemps que la frontière sud du Mexique est en fait la frontière sud des États-Unis. Et en ce moment, c'est...
Alors, on a perdu Dolores Paris. On va...
On appelle la garde nationale. Et après les accords qu'il y a eu entre les deux gouvernements en juin, la première semaine de juin, López Obrador a promis d'envoyer 6 000 agents de la garde nationale, qui est une police militarisée, vers le sud du Mexique, et 18 000 vers la frontière nord. Ce qui a eu lieu, c'est qu'effectivement, c'est en plus des agents migratoires, qui sont près de 8 000, on a en ce moment une énorme quantité de militaires transformés en gardes nationaux qui sont en train de contrôler les deux zones frontalières et, comme je vous disais, surtout l'isthme où le territoire diminue et c'est plus facile de contrôler, car notre frontière sud a des très grandes parties qui sont dans la forêt vierge et qui sont dans les montagnes, donc qui sont presque impossibles de contrôler.
Oui, donc c'est presque plus facile pour les États-Unis, enfin c'est pas presque, c'est plus facile d'envisager de contrôler la frontière sud du Mexique plutôt que la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Mais est-ce que réellement on peut totalement fermer cette frontière au sud du Mexique?
Non, justement, je parlais de la frontière sud, c'est-à-dire la frontière sud du Mexique est impossible de contrôler et de fermer. Parce que la plupart du territoire qui court par la frontière sud, des territoires frontaliers, n'ont pas de voie de communication, pas de route, pas de voie ferrée. et beaucoup de régions sont dans la forêt vierge. Et il y a des peuples qui habitent des deux côtés et qui ne savent même pas qu'il y a une frontière ou n'ont jamais fait attention à la frontière. Ils vivent des deux côtés de la frontière, c'est leur territoire. Donc leur territoire est au-dessus des nations. Et donc ce qu'a fait depuis Vicente Fox, c'est-à-dire depuis l'an 2001, où en effet on a impulsé un programme similaire, le contrôle se concentre surtout Oaxaca et Veracruz et le nord du Chiapas. C'est une ceinture du Mexique qui est beaucoup plus facile de contrôler.
James Cohen parlait tout à l'heure d'un programme de développement. Effectivement, AMLO avait promis durant sa campagne qu'il allait développer ses territoires au sud. En tout cas, ces territoires qui longent le sud de la frontière.
Il a appelé de ses voeux un grand programme de développement qui pourrait être un peu comme le plan Marshall et qui couvrirait à la fois les zones un peu socialement sinistrées du sud du Mexique, les zones les plus pauvres, l'état du Chiapas en premier, mais d'autres aussi, et également des pays de l'Amérique centrale, du Triangle Nord. C'est, à mon avis, une idée qui s'impose. Parlons cette fois-ci comme citoyen des États-Unis, je pense qu'à Washington, on devrait faire plus attention à ce genre de choses et se soucier beaucoup plus que dans le passé du développement de ces pays et pas de n'importe quel développement.
Mais comment l'interpréter, ce programme de développement, pour ce qui est de la politique migratoire qui nous intéresse aujourd'hui? Si je résume les choses, est-ce que si je dis qu'en gros, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer cette frontière sud, précisément parce que on sait que c'est là que vont s'amasser énormément de migrants et de candidats à l'exil qui vont partir du côté des États-Unis, on essaye en gros de les retenir dans cette zone-là en enrichissant ces territoires. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être dans la tête des responsables mexicains, voire même états-uniens?
C'est un peu cela, et c'est ça peut l'idée. Même être, je dirais, en partie illusoire, parce qu'on sait que la relation entre migration et développement est très paradoxale et le développement peut aussi engendrer d'autres flux, etc. Mais bon, néanmoins, je pense que c'est une idée qui s'impose, pas n'importe quel développement, évidemment, mais il était beaucoup question dans le discours d'AMLO d'arbres fruitiers et de redonner vie à des zones agricoles. Et on n'imaginait pas nécessairement, mais il y a aussi le train Maya, le train qui doit passer par cette zone du sud du Mexique, et qui est très controversé, mais qui apparemment ne ferait pas des tonnes de dégâts écologiques. Tout ça est en discussion. Mais le problème, c'est que les États-Unis et surtout sous Trump ne sont pas partants pour cette aventure. Le développement, c'est la dernière chose au monde qui les intéresse.
Ils sont pas prêts à payer pour participer au développement de cette frontière sud.
Ils sont prêts à payer pour les programmes habituels de surveillance des flux internationaux des membres des gangs et des choses comme ça.
Pas pour le développement. Dolores Paris, sur ce programme de développement là, dans cette zone sud du Mexique, est-ce que l'objectif qui serait de le développer pour précisément lutter contre l'immigration, pour peut-être retenir les candidats à l'exil dans ce territoire-là, est-ce que ça peut fonctionner? Si j'ai bien compris, de ce que j'ai lu en préparant cette émission, aujourd'hui, on est à des niveaux quand même très importants, c'est-à-dire qu'on a à peu près 1 millier de personnes par jour qui arrivent dans cette zone-là, dans cette frontière sud du pays. On se demande si, à ce rythme, on va pouvoir effectivement d'abord accueillir les gens. Est-ce qu'on va pas droit vers une crise de l'accueil absolument terrible? Et quand bien même on aurait ce programme de développement, on se demande si réellement il peut être de nature à contenir ces flux migratoires. Dolores Paris.
Oui, en effet, comme disait James Cohen, il y a un rapport assez contradictoire entre migration et développement. Et c'était exactement l'idée qui était derrière l'accord de libre commerce entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc ça n'a pas marché, disons-le simplement, d'une façon très simple. Puisque le développement souvent provoque de nouveaux flux. Et en plus, nous avons en ce moment des flux qui sont très particuliers, qui sont assez différents des flux traditionnels, qui étaient plutôt des hommes, quelques femmes adultes qui allaient chercher du travail. En ce moment, on a beaucoup de demandeurs d'asile Et on a des familles, gens qui sont même handicapés dans les flux, des gens qui ont des, disons, de toutes sortes de problèmes, mais surtout des demandeurs d'asile. Donc des gens qui fuient la violence et pas seulement le manque de développement. Et donc il y a eu aussi beaucoup de programmes pour diminuer la violence, surtout au nord d'Amérique centrale, qui n'ont pas marché non plus, car on a là-bas des crises politiques continuelles qui, sont aussi une crise de légitimité en ce moment.
Sûr. On en parlera tout à l'heure avec Hélène Roux, qu'on accueillera par téléphone. Je voudrais qu'on s'intéresse peut-être un tout petit peu aux conditions dans lesquelles les migrants se retrouvent précisément dans ces zones frontalières. Je propose d'écouter d'abord un petit extrait d'un reportage. C'est simplement de l'ambiance, mais je pense qu'elle est assez parlante, cette ambiance. On est à Tapachula, donc au Mexique, mais on est tout près de la frontière avec le Guatemala. C'était le 21 août dernier. Écoutez l'atmosphère sur place. Voilà, donc on entend évidemment très clairement la tension entre les migrants, d'ailleurs il va falloir dire qui sont ces migrants, les services de police qui là gèrent précisément les protestations et les violences qu'il y a autour de tout ça. En réalité, la crise de l'accueil, elle a déjà commencé dans cette zone sud de Dolores Paris, très clairement. Elle est déjà à Tapachula.
Tout à fait. Cela fait déjà un moment qu'il y a des problèmes à cette frontière. Tapachula n'est pas exactement sur la frontière, elle est 20 kilomètres au nord, mais c'est vraiment, disons, le point de confluence des flux migratoires qui viennent de l'Amérique centrale le plus important. Et c'est là où il y a les bureaux de la COMAR, qui est la Commission mexicaine d'appui aux réfugiés.
Et il se trouve que là, les migrants qu'on entend, Dolores Paris, ce sont très essentiellement des migrants qui viennent d'Afrique.
En effet, on a aussi, en plus des migrants d'Amérique centrale dont on parle toujours, on a aussi d'autres flux très divers qui, justement, arrivent par cette frontière et qui, traditionnellement, on les laissait passer avec une certaine facilité. C'est-à-dire, il y avait bien sûr beaucoup de corruption dans ces démarches, mais il y avait une démarche que faisaient tous ces migrants pour obtenir ce qu'ils appelaient en laissez-passer, qui en fait était une sorte de permis pour passer 20 jours au Mexique. Ils en profitaient pour monter jusqu'à la frontière nord et demander l'asile aux États-Unis. En ce moment, ces permis ne sont plus livrés aux migrants, aux demandeurs d'asile. Et donc, ils sont coincés, ils sont tous bloqués à la frontière sud du Mexique sans aucune réponse. Aucun type de réponse, ni logement, ni nourriture, absolument rien. Même des familles avec des bébés qui ont fait quelquefois des milliers de kilomètres en passant par plus de 12 pays.
Et là, en l'occurrence, hein, les personnes qui sont devant ces services d'émigration de Tapachula, effectivement, quand on regarde les images, ils dorment à même le sol sur des cartons devant le centre d'émigration en espérant obtenir le sésame. James Cohen, cette crise des migrants qui est déjà bel et bien en route, hein, dans cette zone-là, dans cette frontière sud.
Oui, mais ça me fait penser à des choses que j'ai observées côté nord aussi. Côté je ne sais pas aussi. Si c'est le sujet, mais je pense que alors que on se languit au Guatemala sans aucune réponse, côté mexicain en attendant d'entrer peut-être aux États-Unis, on reçoit beaucoup de réponses, mais des réponses de plus en plus kafkaïennes. On multiplie des normes qui sont fabriqués par les services d'administration Trump, qui n'ont rien à voir, qui vont surtout pas consulter le Congrès là-dessus, mais qui sont en train d'introduire par la branche exécutive des normes qui n'ont.
Vous pouvez nous donner un exemple là-dessus?
Disons l'exemple d'abord là où il faut commencer, c'est l'exemple massif, c'est qu'on piétine le droit qui existe en matière de réception des demandeurs d'asile et on multiplie les petites règles qui les obligent à attendre au Mexique. À avoir l'obligation de demander d'abord à un autre pays et de se voir refuser l'asile avant de demander aux États-Unis. Et il y a 50 autres petits trucs comme ça qui ont exactement pour but de frustrer les demandeurs d'asile et de les faire, comme dit Madame Palis, il se concentre côté sud de la frontière et s'expose à toutes sortes de violences.
Sur les conditions d'accueil, Dolores Paris, sur les conditions aussi de vie dans les centres mexicains, quelque chose à ajouter?
Disons que la frontière nord du Mexique est beaucoup plus riche que la frontière sud, même si évidemment là-bas il y a le contraste avec le côté des États-Unis. À la frontière nord, les demandeurs d'asile qui attendent ont au moins, disons, des centres d'accueil mis par la société civile et par l'Église catholique, surtout, où ils peuvent attendre en ce moment quelques mois avant ces centres. C'était juste pour 2-3 jours avant de passer la frontière. En ce moment, ils ont des familles qui sont là-bas pendant des mois. Même dans cette situation, vu qu'on a en ce moment plus de 30 000 demandeurs d'asile qui ont été refoulés vers le Mexique, non mexicains bien sûr, ces 30 000 personnes, il y a une très grande quantité qui est aussi en situation, disons, de vivre dans les rues, qui n'ont pas de logement. Mais à la frontière sud, la situation est beaucoup plus grave et plus intense. C'est une ville petite et c'est une seule ville, Tapachula surtout, qui concentre toute cette problématique.
Dolores Paris, avant d'accueillir une nouvelle invitée par téléphone, Hélène Roux, je voudrais qu'on parle peut-être d'un autre problème, parce que si on regarde ce que sont les ambitions, les objectifs aujourd'hui de l'administration américaine, on voit bien que ce que voudrait l'administration américaine, c'est que le Mexique devienne un pays tiers sûr, c'est-à-dire un pays, parce que ça permettrait aux États-Unis de refuser d'étudier les demandes d'asile des migrants arrivés au Mexique et de transférer cette tâche précisément au Mexique. Jusqu'ici, c'est vraiment la ligne rouge, c'est la chose que Mexico ne veut pas accepter. Mais jusqu'à quand? Et je poserai la même question à James Cohen, Dolores Paris. Est-ce que Mexico va pas être contraint, finalement, d'accepter cette idée de pays sûr, tiers, afin de prendre à sa charge la question de la gestion des migrants qui veulent aller aux États-Unis, Dolores Paris?
Oui, donc il y a en effet une... Pardon, je suis juste en train d'arriver en ce moment.
Alors, c'est pas grave, je vais passer la parole à James Cohen. Oui. Sur ce point-là, est-ce que AMLO pourrait être contraint finalement d'accepter ce qui, pour l'instant, constitue la ligne rouge en matière de politique migratoire?
Je pense que vous l'avez bien dit, c'est la ligne rouge, parce que symboliquement, vis-à-vis, je pense, je dirais même de l'opinion au Mexique, il peut difficilement reculer là-dessus en disant oui, on a cédé là-dessus. Dans la pratique, on cède. Dans la pratique, on avale toutes les couleuvres et on va même plus loin. Mais là-dessus, vis-à-vis du droit international, il refuse d'accepter ce statut. C'est un petit peu illusoire, mais le droit international.
Si on formule, James Cohen, l'hypothèse que le Mexique devient un pays sûr, ce qui est pas complètement absurde parce que d'autres l'ont fait. On va en parler dans un instant. Le Honduras, le Salvador, etc. Le Guatemala également. Dans l'hypothèse où le Mexique l'accepterait, quelles conséquences?
Il faudrait peut-être demander à plus juristes que moi, mais je pense que ce serait une façon d'assurer encore plus que les flux vers les États-Unis, les demandes d'asile vers les États-Unis n'existeraient plus. L'idée de l'administration Trump est de les diminuer. Et on bat tous les records maintenant. On a déclaré récemment que cette année, pour l'année fiscale actuelle, on n'acceptera plus que 18 000 au total. Donc voilà une méthode de plus pour le faire.
On était avec vous, James Cohen et Dolores Paris, autour de ces frontières de la colère. Aujourd'hui, la forteresse Trump pour le pari du mur. Et on va précisément s'intéresser à ces pays d'Amérique centrale qui ont accepté ces accords et qui sont donc devenus des pays sûrs. C'est le cas du Honduras.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous, Honduriens qui aimons notre pays, nous quittons notre famille, nous quittons tout en voulant trouver une opportunité que notre pays ne nous offre pas.
On nous a dit qu'il y avait des refuges, mais le bruit court qu'ils veulent nous emmener là-bas pour nous rapatrier. Alors je ne veux pas aller dans un refuge, je préfère dormir en plein air pour ne pas retourner au Honduras. Même s'ils m'attrapent, coûte que coûte, je ne veux pas rentrer au Honduras.
Voilà, extrait d'un reportage qui avait été diffusé sur France 24 en octobre 2018. Depuis, le Honduras a signé un accord avec Washington sur l'immigration et donc a accepté de devenir un pays tiers. En juillet dernier, sous la pression des sanctions américaines, le Guatemala était devenu aussi un pays tiers, c'est-à-dire un pays où les migrants doivent déposer leur demande d'asile pour les États-Unis. Puis le 20 septembre, c'est donc le Salvador qui signait également un accord. C'est donc maintenant au tour du Honduras. Hélène Roux, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, journaliste, une spécialiste de l'Amérique centrale. On vous a déjà entendu sur ces thèmes à notre antenne. Le président du Honduras, Juan Orlando Hernández, était présent lors de l'Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière et c'est en marge de ce rendez-vous diplomatique qu'il a signé ce texte. Que vous inspire à la fois la mise en place de cet accord, et puis il faudra peut-être préciser quels sont les engagements très concrètement qu'il y a derrière, et on verra aussi les contreparties obtenues ou non par le Honduras. Hélène Roux.
Eh bien, écoutez, moi, ce que ça m'inspire, c'est que, en fait, pour les pays d'Amérique centrale et en particulier pour le Honduras, cet accord est en fait l'aboutissement de menaces et de pressions de la part des États-Unis sur le Honduras en particulier. Il faut savoir que le Honduras et en particulier le président du Honduras et sa famille sont en délicatesse avec Washington, puisque le frère du président hondurien est mis en cause dans une affaire de narcotrafic aux États-Unis. Donc il y a des choses qui s'ajoutent. Mais en ce qui concerne les mesures concrètes, en fait, même plus que pour le Mexique, pour les pays d'Amérique centrale, les menaces qui pèsent sur eux, c'est d'abord le retrait de l'aide états-unienne au développement. Deuxièmement, la menace de taxer les remises, c'est-à-dire l'argent qu'envoient les Honduriens au pays. Et puis, finalement, effectivement, l'augmentation des taxes douanières, alors que les pays d'Amérique centrale ont un accord commercial avec les États-Unis.
Et Hélène Roux, sur la question de l'argent du développement, James Cohen nous disait tout à l'heure, du côté des États-Unis, on veut bien donner de l'argent pour tout ce qui est vraiment sécuritaire, surveillance aux frontières, etc., etc. Mais pour la question du développement, on donne pas grand-chose. Vous nous dites si quand même, il y a des programmes de développement et ça permet de faire des leviers, de faire pression sur ces pays-là, Hélène Roux.
Alors. Oui, évidemment, parce que bien sûr, mais moi je suis d'accord avec Jim Cohen, effectivement, la partie sécurité est extrêmement importante. Il faut savoir que donc les États-Unis ont un petit peu recentré leur aide sur une région qui considère donc le Salvador, le Guatemala et le Honduras, sous la forme d'un programme qui s'appelle l'Alliance pour la prospérité du Triangle Nord. Donc ce sont ces trois pays, mais quand on regarde notamment par exemple la page de la Banque interaméricaine de développement qui donc finance ces programmes, on voit bien que la partie sécuritaire est extrêmement développée par rapport au reste des programmes qui sont mis en œuvre, et en particulier en liant la question de la migration et de la violence. en particulier dans le cas du Honduras et du Salvador.
Si on prend précisément le cas du Honduras, Hélène Roux, puisque c'est le dernier de ces trois pays du Triangle Nord qui a signé un accord avec Washington, si on regarde un peu ce qui se passe sur le Honduras, est-ce que c'est un pays d'abord qui génère beaucoup de migrants, et quel type de migration, au fond, quelles sont les racines de la migration hondurienne, si on regarde les choses, Hélène Roux, sur le Honduras?
Alors, les racines de la migration Honduras sont diverses. Je dirais que la première et la plus importante, ce sont des raisons liées à la violence et à l'impossibilité aussi de développer une activité normale, c'est-à-dire de vivre normalement. Elles sont aussi bien économiques que liées à la violence. Et en particulier, enfin, quand on parle de violence, on parle toujours, dans le cas du Honduras, de la violence liée aux bandes, etc. Moi, je voudrais attirer l'attention sur la violence sociale dans le cas du Honduras, de gens qui sont obligés de quitter leur pays parce qu'ils sont menacés très directement du fait d'être des opposants au gouvernement, par exemple. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, par exemple, une journaliste très connue au Honduras a été victime d'une tentative de séquestration, etc. Il y a plusieurs journalistes qui sont exilés à l'étranger. Et c'est une violence qu'on aborde moins souvent parce que la question de la délinquance commune prend un peu toute la place. C'est vrai que ça existe, mais c'est très intimement lié avec une violence sociale, et c'est aussi cette violence commune, elle est très instrumentalisée pour...
Alors, nous avons perdu Hélène Roux, on va essayer de refaire une liaison. Donc, violence sociale, nous disait-elle, violence politique. C'est vrai qu'on a un gouvernement autoritaire qui, depuis des mois d'ailleurs, a engendré une crise sociale très forte avec des manifestations très régulièrement. Mais il y a aussi des violences liées à la question de l'insécurité. Dolores Paris, vous êtes arrivée avec nous, ça y est, vous êtes avec nous en studio. Je vous souhaite la bienvenue, merci d'être avec nous. Je vais peut-être vous faire réagir précisément sur cette violence, parce que on parlait des États-Unis qui finalement se mure en forteresse et empêche les migrants d'arriver. En revanche, il y a quelque chose que les États-Unis ont fait ces dernières années, c'est produire de la violence dans ces territoires en particulier. On s'en souvient peut-être pas, mais dans les années 90, il y a eu un grand programme par lequel les États-Unis ont envoyé des personnes qui étaient derrière les barreaux, et notamment les fameux membres de gangs, les maras.
Ça continue.
Ça continue aujourd'hui. On les a envoyés sur ces territoires-là, et donc on a produit de l'insécurité en les envoyant dans ces pays du Triangle Nord, vous confirmez, Dolores Paris?
Oui, en effet, un des problèmes est les gangs, mais comme disait Hélène Roux, il y a un autre problème, et c'est le problème politique. Donc la crise politique qu'on a en ce moment au Honduras provient particulièrement de 2009, avec un coup d'État appuyé par les États-Unis. Et donc, on a aussi une problématique politique de confrontation et de conflit, et surtout de répression contre les mouvements sociaux.
C'est une combinaison de facteurs, comme souvent, bien sûr. James Cohen.
Oui, alors on fait bien de rappeler ce qui s'est passé en 2009, parce qu'il y a eu un coup d'État dans ce pays. On a éjecté un président élu. C'était un peu plus compliqué parce que le Congrès était mêlé à ça. Il y avait un élément civil, mais en tout cas, les États-Unis ont cautionné. La secrétaire d'État à l'époque s'appelait Hillary Clinton, et elle a tout fait pour éviter d'agir, en donnant l'impression de vouloir agir. Et ça a duré des mois et des années, et a eu pour conséquence de ratifier ce régime issu d'un coup d'État et qui continue, même s'il y a des élections, et même si la gauche a failli en gagner une récemment, néanmoins on a affaire à quelque chose d'assez corrompu et mafieux. Faire du développement avec ça, là ça pose question.
Hélène Roux, peut-être on vous a récupéré, peut-être une dernière réaction justement sur ce phénomène de migration dans ce triangle du Nord.
Ben écoutez, je pense que en fait pour l'instant les conditions qui font que les gens partent se maintiennent. tiennent. Et donc, malgré tous les discours, il y a peu de chances que ça s'arrête, parce qu'on a beaucoup fait... on a beaucoup parlé des caravanes de migrants l'an dernier, etc. Mais c'est un flux continu et silencieux qui ne va pas s'arrêter. Maintenant on essaye, le gouvernement des États-Unis essaye de contenir les migrations dans des pays qui sont eux-mêmes expulseurs de migrants. Donc je me demande vraiment comment ça va se passer. Et d'autre part, ça fait un espèce d'effet tuyau de poêle, puisque le Honduras va bloquer les migrants cubains et nicaraguayens, les guatémaltèques vont bloquer les honduriens et les salvadoriens. Voilà, donc on a une espèce d'effet domino pour lesquels ces pays ne sont absolument pas préparés avec des problèmes eux-mêmes totalement énormes qui ne seront pas résolus par ce genre de mesures, à mon avis.
Oui, la grande crise finalement est à venir, on le sent bien, la grande crise migratoire de la région est encore à venir. Dolores Paris, Hélène Roux parlait d'effet domino. Est-ce qu'effet domino il peut y avoir concernant un éventuel accord migratoire qui ferait du Mexique un pays sûr? Parce que aujourd'hui, quand on regarde les choses dans le Triangle Nord, ça y est, maintenant, ce sont tous des pays supposément sûrs, où donc les demandeurs d'asile sont obligés de s'adresser aux autorités locales, donc honduriennes, au Guatemala et au Salvador, voilà, ces trois pays-là. Est-ce que le Mexique pourrait aussi devenir demain un pays sûr? On le disait tout à l'heure avec James Cohen, jusqu'ici, le président Obrador a dit « c'est hors de question, c'est la ligne rouge », mais est-ce qu'il pourrait finir par y être contraint?
Oui, en fait, on parlait de ces pays n'ont pas du tout de système d'accueil, c'est ridicule, si ce ne serait tragique que le Guatemala soit déclaré en pays tiers sûr.
C'est pourtant le cas.
Et c'est le cas, et probablement, oui, on a marché vers un pays tiers sûr au Mexique, il y a beaucoup de mesures qui sont en place en ce moment, et qui feraient presque du Mexique un pays tiers sûr, vu que c'est là où sont en train d'arriver finalement les demandeurs d'asile, plutôt qu'aux États-Unis. Mais ce serait, disons, le pas final. Jusqu'à ce moment, le président du Mexique s'est résisté, mais c'est très probable que cela finisse. Oui.
Merci beaucoup. En tout cas, Hélène Roux est avec nous par téléphone. On va s'intéresser maintenant aux États-Unis. On va pénétrer cette forteresse Trump, et pour ce faire, on va le faire à hauteur d'homme et de femme.
Pour entrer aux États-Unis, il faut débouler jusqu'en bas, souffrir, se cogner, se blesser avec les barbelés. On va voir comment il s'y prend pour traverser ce type là-bas. Et si ça marche pour lui, on essaiera de faire pareil, histoire d'affronter la réalité.
Voilà, extrait notamment d'un reportage Mexique, si près du but de Daniel Andreas Saguer, dans lequel on entend des migrants qui tentent de passer la frontière avec les États-Unis du côté de Tijuana. Dans ce cas présent, malheureusement, ça sera un échec. Regardons, James Cohen, ce qui se passe du côté des États-Unis. D'abord, il y a un chiffre qu'on n'a pas encore donné, donc j'aimerais bien qu'on le donne. C'est celui de l'arrivée de migrants aujourd'hui aux États-Unis. Est-ce qu'on a une idée de combien de migrants arrivent aujourd'hui aux États-Unis et comment ça a évolué ces derniers mois? On s'interroge sur ces accords, sur cette manière, cette politique qui vise à externaliser et à repousser toujours plus loin les frontières des États-Unis. Aujourd'hui, on en est où sur le territoire américain?
Le seul chiffre que j'ai réellement en tête, c'est celui que j'ai donné il y a quelques minutes, c'est-à-dire qu'on sait que l'administration Trump volontairement restreint et limite chaque année un peu plus le nombre de demandeurs d'asile qu'on va admettre, à qui on va donner l'asile. On sait aussi qu'on fait exprès de créer des backlogs, c'est-à-dire de faire attendre les gens, non seulement pour les dégoûter, mais pour que les demandes deviennent intraitables. Et il y a, y compris aux États-Unis, des dizaines de milliers, je ne sais pas combien de dizaines de milliers, mais il y a, je sais que dans chaque ville des États-Unis, il y a des gens en attente de leur, leur enquête et d'une décision les concernant, parce qu'ils ne sont pas en détention, heureusement, en détention familiale qui se développe, encore une fois, mais ils sont suspendu à une décision qui sera très très probablement négative, parce que de toute façon on ne donnera jamais l'asile à plus de 2 ou 3% d'entre eux.
Et alors sur les expulsions en particulier, James Cohen, parce que donc l'entité qui est chargée des expulsions aux États-Unis, c'est l'Agence fédérale de l'immigration, et très régulièrement Donald Trump, à grands coups de tweet, explique que on va opérer, réaliser des grandes opérations, des raids de masse, hein, c'est l'expression qu'il utilise. Est-ce que effectivement là ces derniers mois les expulsions ont explosé? Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à...
Il y a eu plus de... Il a crié fort et agi un peu moins, mais néanmoins, il s'est passé des choses très graves récemment dans l'État du Mississippi, où il y a eu une série de raids dans des entreprises, un peu comme on le faisait à l'époque de Bush après 2006. Entre 2006 et 2009, on a multiplié les raids dans les entreprises. On venait embarquer les salariés soupçonnés d'être en situation irrégulière. Mmh. On les séparait de leurs enfants pour l'occasion, parce que comment ils vont rentrer à l'école, etc. Bon. Et c'était évidemment pour le show, évidemment pour satisfaire sa base. Globalement, il y a eu, jusqu'à la dernière fois que j'ai regardé le nombre d'expulsions globales, Trump n'a pas encore atteint les niveaux globaux d'expulsés d'Obama, qui tirait vers les 250 000 dans les dernières années.
250 000 par an.
200 000, enfin, c'était plus élevé avant,
jusqu'à 400 000. Jusqu'à 400 000. Donc Obama expulsait davantage que ne le ferait
mais,
Trump
mais,
aujourd'hui.
Mais il y a un grand mais ici.
Oui ou non, Obama expulsait davantage que Trump.
C'est tout à fait le cas. D'accord, c'est tout à fait le cas. Okay. On peut pas le nier statistiquement, d'accord, c'est le cas. Jusqu'à maintenant, Trump a moins expulsé, mais il a beaucoup plus expulsé de personnes qui n'avaient pas à être expulsées aux yeux de la loi, c'est-à-dire qui n'ont pas commis d'autres crimes ou délits que d'être en séjour illégal sur le territoire, mais par ailleurs n'ont pas de problème avec la loi, alors que la grande idée d'Obama, mal exécutée peut-être jusqu'aux dernières années, c'était qu'on expulsera que les cas prioritaires de personnes qui ont commis des crimes, etc. On va donc déverser sur les pays d'origine des criminels. Et voilà. Mais...
Dolores Paris, quand on entend James Cohen nous expliquer qu'en réalité, Donald Trump expulse beaucoup moins que ce que faisait Obama à l'époque, qu'est-ce que ça vous inspire finalement?
Oui, disons qu'Obama, surtout pendant son premier mandat, détenait et expulsait énormément de migrants sans papier à travers les polices locales. C'est-à-dire qu'il y avait des accords entre la police migratoire, ICE, et les polices locales. Les policiers vous arrêtaient parce que vous aviez passé en feu rouge ou parce qu'ils voyaient que vous n'aviez pas de permis de conduire.
On vous renvoyait.
Et il le détenait à la police et le livrait à la police migratoire et ensuite ils étaient expulsés.
Donc vous dites que c'était d'autres types d'expulsions, c'est ça que vous nous dites?
Non, je dis initié qu'il y avait un système qui permettait d'expulser en très grande quantité à travers une collaboration qui a été interrompue en 2013 par le propre Obama.
James Cohen.
Et dans ce cadre, certains États, certains comtés, certaines municipalités faisaient du zèle et d'autres se retiennent en disant que non, exactement, on ne veut pas aliéner la population immigrée, on veut au contraire qu'ils aient confiance en nous. On est dans un patchwork fédéral très complexe actuellement. Je vais régulièrement en Arizona, qui est connu pour être l'État le plus strict et le plus répressif, mais il y a une dichotomie intéressante au sein de cet État entre la capitale, qui est très conservateur et républicaine et connue pour ses pratiques répressives à tous les échelons, et la ville plus au sud de Tucson, qui est de 500 000 habitants quand même, plus proche de la frontière, plus mexicaine dans son héritage, et bastion démocrate, et peuplée par beaucoup d'humanitaires et de personnes qui luttent pour les droits des immigrés. C'est tout à fait autre chose.
Si on revient, James Cohen, sur les promesses de Donald Trump, que de d'ériger ce mur tout au long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, sachant qu'en réalité, ce mur, en tout cas des portions de mur, existent depuis très longtemps. Ça fait longtemps qu'on met comme ça, qu'on construit un mur. Mais lui, sa promesse, c'était de faire un mur tout au long de la frontière. On voit les difficultés qu'il a eues pour obtenir les financements. On se souvient de ce bras de fer au début de l'année où Trump avait dit « mais moi, si j'ai pas mes financements, j'irai au shutdown et l'administration sera bloquée », ce qui s'est passé, sauf qu'il a perdu son bras de fer puisque les financements n'ont pas eu lieu. Et puis, il y a eu ensuite un juge qui a empêché l'option envisagée par Trump qui était d'aller prendre des crédits ailleurs et notamment du côté du Pentagone, du côté de la défense. Mmh. Il se trouve que là, il y a quelques jours, cette interdiction a été levée et qu'il peut aller maintenant piocher justement du côté de ces finances-là, du côté de ce qui est prévu normalement pour la défense, pour aller le récupérer sur le mur. Je vais vous poser la question directement, James Cohen. Est-ce qu'il peut arriver à ériger son mur ? Politiquement.
D'après les derniers échos que j'ai eus, il est en train d'ériger des bouts de mur ou un bout de mur dans une zone écologique où l'idée même de construire quelque chose de cet ordre est absurde, mais on n'est pas à une absurdité près. Dans le sud de l'Arizona, j'ai vu des échos et des cris venant d'amis, de gens qui habitent dans la zone récemment, comme quoi dans une zone protégée, je ne sais plus laquelle, parce qu'il y en a plusieurs sur la frontière, c'est une zone désertique, mais avec une végétation intéressante et des espèces animales qu'il faut protéger, mais un mur ça va détruire tout ça. Et il y aura de la protestation. Il y aura des protestations. On va en entendre parler. Je pense que c'est le seul morceau de mur qu'il a pu ajouter. Je pense qu'il a rafistolé ici et là. Il a ajouté les barbelés pour le show il y a quelques mois dans le cadre d'un état d'urgence nationale que personne auquel personne n'a cru, même les militaires. Bon.
Et alors, du coup, si on fait le bilan des choses et qu'on se réalise qu'en réalité, ce mur, il n'a pas beaucoup avancé en quasiment 3 ans, James Cohen, est-ce que ça veut dire que pour l'année prochaine, pour sa réélection, ça pose problème ? La question est-ce que les soutiens de Trump en 2016 pourraient le lâcher pour 2020 ? Quel coup politique pour Donald Trump que la non-réalisation de ce mur ?
Je pense qu'il trouvera quand même pour la base fidèle, de quoi montrer une vidéo démontrant que voilà ce qu'on a réalisé. Ça sera peut-être juste un kilomètre au moins, mais il aura toujours quelque chose à montrer à sa base, même s'il a perdu des batailles en cours de chemin là-dessus.
Mais ça risque de toute façon toujours un enjeu politique très fort pour la campagne.
Il est en train de rencontrer d'autres ennuis en ce moment qui sont hors sujet, mais qui font qu'il va peut-être trébucher.
Pas complètement hors sujet, peut-être qu'on y reviendra. Dolores Paris, sur le coût politique de la non-construction de ce mur pour Trump.
Oui, je crois que pour Trump, c'est plus le discours et pour la plupart de la population des États-Unis, la frontière est plus une idée qu'une réalité, c'est-à-dire ils vont jamais là-bas. Moi, j'habite à Tijuana, qui est à une quarantaine de kilomètres de San Diego. Et San Diego donne sur le mur aussi, mais généralement, les gens ne voient vraiment pas la frontière à San Diego. À la différence d'autres parties de la frontière où il y a un peu plus d'échanges transfrontaliers. Donc, pour les gens de Washington, la frontière, c'est vraiment plus une idée qu'une réalité. Mm. Ils y vont jamais, ils savent pas comment c'est là-bas. Ils ont une idée de crise qui est construite par les discours depuis des années. Et donc, s'il va construire ou pas construire son mur, pour lui, il dira « voilà le mur », comme dit James Cohen, même si c'est 60 kilomètres sur les 3200 kilomètres de frontière, pour eux, ce sera suffisant.
Revenons justement sur le contexte états-unien et sur précisément ce qui est en train de se passer en ce moment, auquel vous faisiez référence, James Cohen, sans le dire, mais il y a effectivement depuis quelques jours maintenant une procédure d'impeachment aux États-Unis. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, ça y est, elle est partie. Alors d'ailleurs, il est même pas sûr que ce soit que ça ne serve pas finalement Donald Trump. Il est peut-être probable que ça affaiblisse aussi Joe Biden. Rappelons que c'est le fils de Joe Biden qui est au cœur de cette affaire-là, puisque le coup de fil entre Trump et le nouveau président ukrainien concernait justement une demande expresse du président américain de regarder un petit peu les affaires du
même
fils
s'il n'y a pas grand
de
chose
Joe
dans
Biden.
Le dossier.
Peut-être, je n'en sais rien, je ne le connais pas le dossier, mais en tout cas politiquement, on peut penser qu'en réalité ça va renforcer Trump et peut-être affaiblir Joe Biden. Si on regarde les choses, James Cohen, d'abord, on a là déjà une primaire démocrate qui est partie aux États-Unis avec des rivalités extrêmement...
La vraie primaire commence en février.
Oui, soit, mais enfin, la campagne est déjà partie en réalité.
Tout à fait.
Les rivalités sont très fortes, Joe Biden, Elizabeth Warren, etc., etc.
Bernie Sanders, on peut le dire aussi.
Bernie Sanders, absolument, absolument, c'est le troisième en tête. Quelle importance dans la campagne aujourd'hui pour les primaires que la politique migratoire ? C'est un enjeu. Est-ce qu'on va faire le jeu de Trump en mettant cette politique migratoire au cœur des débats, alors même que ça avait servi Trump?
Je pense que Trump n'y manquera pas, parce que c'est un argument permanent, central, symbolique, etc., tout ce qu'on veut depuis 2015. Depuis l'entrée en campagne. Et du côté démocrate aussi, j'ai regardé les trois débats qu'il y a eu jusqu'à maintenant, du début à la fin, et l'enjeu de l'immigration est plus fréquemment évoqué dans les débats. Et il y a même des débats très contradictoires. Je me souviens d'un échange, quelques échanges, mais entre des candidats comme Beto O'Rourke, qui vient lui-même de la frontière, d'El Paso, Julian Castro, qui est de San Antonio, et qui avait des choses assez dures à dire à Biden sur le bilan de l'administration Obama, dont Castro lui-même a fait partie, mais il est plus critique. Bon, l'enjeu est là dans le débat. Je pense que les électeurs démocrates, peut-être pas tous, mais beaucoup pensent à ça. Même si on n'habite pas près de la frontière, on est conscient des abus infinis des droits de l'homme qui ont été commis ces dernières années. Et là, on a compris que non seulement l'image du pays est en train de souffrir,
vous pensez que c'est dans l'intérêt des démocrates que de précisément affronter cette question de la politique migratoire?
Peut-être qu'ils ne le mettront pas tous en avant. Je pense que le candidat à la présidence finira par être semi-discret là-dessus.
Semi-discret.
mais dans les débats entre démocrates, je peux vous dire qu'il y a des thèses contradictoires qui circulent, même s'il y a globalement, je pense, côté démocrate, au moins quand même un consensus sur l'idée qu'il faut faire quelque chose de beaucoup plus en accord avec la loi, avec la démocratie, avec le droit humanitaire et avec le principe du bon voisinage. Voilà.
Il y a un risque, évidemment, de Dolores Parris chez les démocrates que de faire le jeu de Donald Trump en évoquant peut-être de façon trop prégnante cette question de la politique migratoire.
Oui, là, j'ai, disons, une opinion comme non-américaine, que cela a été le cas pendant le gouvernement d'Obama, du moins pendant son premier gouvernement. Je crois que la leçon a été forte. Et j'espère et je crois que ça ne va pas se répéter. Donc, je suis d'accord avec James Cohen que très probablement, il y aura d'autres thèmes qu'on va essayer de mettre à l'avant, comme le thème de la santé, par exemple, et surtout des thèmes de politique intérieure et d'économie, plutôt que de toucher directement le thème migratoire, justement pour éviter de tomber dans le même jeu.
Et vous avez l'impression que justement les signaux qui nous viennent de cette primaire démocrate vont dans ce sens-là, on essaie de ne pas trop toucher à la question migratoire.
Oui, ils ont l'air d'être très, très...
Très, très ?
Cuidadosos.
Pas apeurés ?
Un peu moins fort.
Oui.
C'est ça, un peu frais...
Frileux.
Un peu réticent, voilà.
Prudent. Ça y est, on y est arrivé. Merci beaucoup à nos deux invités, Dolores Parris, merci infiniment d'être venue dans nos studios. Je rappelle que vous êtes chercheuse au Colegio de la Frontera Norte à Tijuana et que vous êtes en ce moment à Paris pour justement évoquer ces sujets-là. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci également à vous, James Cohen. On poursuivra évidemment notre série consacrée aux frontières de la colère demain.